Pour illustrer le texte d'aujourd'hui, qu'on ne va pas afficher pour l'instant, j'ai une petite histoire à vous raconter qui tombe en fait à point nommé. C'est une aventure que nous avons vécue hier avec ma famille et une chère sœur de notre église. Et quand je dis une aventure, c'était vraiment une aventure. Nous avions rendez-vous pour manger chez elle à midi. Et puis, nous avons décidé de partir en promenade ensuite. Et donc, nous avons décidé de partir faire le tour du plan d'eau de Saint-Yrieix. Tout s'est bien passé. Sauf que nos enfants, vous voyez, ils voulaient prendre des chemins de traverse un peu. Ils ne voulaient pas rester sur le sentier avec nous, le sentier qui est bien balisé, bien droit. Vous voyez, il y avait des petits sentiers qui partaient sur la droite, sur la gauche, vous savez, les sentiers de VTT qu'on a un petit peu. On leur disait non. Et finalement, sur le chemin du retour, on leur dit, bon, ben allez-y, prenez-le ce sentier. Et donc, ils partent. Il ne restait plus que Gabriel avec nous. On continue à marcher, nous attendant à les voir revenir. Vous savez, ces sentiers, souvent, ils font juste une petite boucle et puis ils reviennent comme ça, ils reviennent sur notre route. On marche une minute, deux minutes, trois minutes. Et là, on se rend compte qu'en fait, ils ont disparu. Est-ce que vous avez déjà perdu un enfant ? Ouais. Vous connaissez cette angoisse. Genre, mais ils sont où ? Alors, t'essayes de regarder à travers les arbres, mais tu vois rien. Tu te dis, est-ce qu'ils sont repartis en arrière ? Est-ce qu'ils sont allés en avant ? Et puis, tu sais, t'as entendu des histoires de gens qui traînaient autour du plan d'eau de Saint-Yrieix, des histoires un peu bizarres. Tu te dis, si jamais ils sont tombés sur quelqu'un... Bon, ils avaient un petit chien avec eux, mais ils faisaient cette taille-là, tu vois. Donc bon, pas beaucoup d'espoir que le chien les défende. On s'est dit, mais s'il leur arrive un truc, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Alors, notre sœur, elle part les chercher sur le chemin. Christelle, elle part en arrière. Il y avait un banc et je m'assois là. Et là, je me suis souvenu d'un texte qu'on avait lu le matin même dans notre méditation quotidienne. Alors il y en a plusieurs. Vous savez, c'est ces calendriers qu'on a, il y a la bonne semence. Nous, on utilise celui-là qui s'appelle « Le Seigneur est proche », qu'on commande chaque année. Et le texte du matin, je me suis dit « Seigneur, tu nous avais avertis ». Et je veux juste... Alors, si je le retrouve... Le titre, c'était « S'inquiéter ou méditer ». Et donc, il partait du psaume 77, où Asaph, qui est l'auteur de ce psaume, s'inquiète des méchants qui prospèrent sur la terre, voyez, et puis du peuple de Dieu qui est opprimé. Et puis, finalement, il décide, par un acte concret de sa volonté, de se détourner de ces pensées-là et de les tourner vers le Dieu vivant et ses promesses et sa fidélité. Mais seulement, vous voyez, il avait l'esprit tellement embrouillé qu'il n'arrive plus à se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui-même dans sa vie. Alors il finit par se rappeler de ce qu'il a fait pour son peuple, comment il a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, comment il a ouvert la mer Rouge, comment il a combattu les ennemis devant eux, comment il a fait tomber les murailles de Jéricho. Il se souvient de tout ça. Et l'auteur donc parle de tout cela et puis il finit avec ce paragraphe que je vous lis. « L'inquiétude nous remplit et nous ne pensons plus qu'à nos problèmes. » La méditation, au contraire, c'est-à-dire de réfléchir aux promesses de Dieu et à qui il est, la méditation, au contraire, nous amène à nous souvenir des témoignages de la fidélité de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie ou dans la vie des autres autour de moi ? Cette méditation, et c'est important, ne change pas nos circonstances. Mais elle éloigne l'inquiétude et nous change, nous. Elle change notre vision des circonstances en nous apprenant à les considérer avec Dieu. Alors, je me suis assis sur ce banc. Vous savez, le matin, quand on a lu ce texte, bon, on l'a un petit peu expliqué avec les filles, et puis après, on a prié, on a dit, « Seigneur, aide-nous à te faire confiance d'une manière concrète. Apprends-nous, vous savez, tu pries cette prière, oui, apprends-nous à te faire confiance, même au milieu de l'épreuve et de la difficulté. » Et voilà que l'après-midi même, tes enfants ont disparu. Et là, tu dis, « Bon, eh ben, je pense que c'est le meilleur moment de mettre en application. » Alors, je me suis assis sur ce banc et j'ai prié. Ma première réaction, c'était l'angoisse. Ma réaction suivante, ça a été de m'en remettre dans le Seigneur qui est fidèle. Et ensuite, je suis parti à la recherche de mes enfants. Mes enfants avaient toujours disparu. Ça a duré à peu près une demi-heure, l'angoisse quand même, tu vois. Jusqu'à ce que finalement, au détour d'un virage, la petite Lucie qui vient, « Papa !» Elle avait eu peur, elle a eu très très peur quand même, hein. Mais ça y est, on s'était retrouvés, c'est bon, on s'était retrouvés et c'était terminé. Mais ma vision de cette épreuve avait changé. En 1 Corinthiens 10, verset 13, nous lisons « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, ou aucune épreuve. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce moyen-là, je l'avais reçu le matin même. J'avais reçu cette parole de Dieu et je savais qu'elle était pour moi à ce moment-là. Ça s'est bien terminé. Ça aurait pu être plus long, mais le Seigneur, dans sa grâce, a permis que ça ne dure qu'une demi-heure. Peut-être que la prochaine fois, ce sera différent. On n'espère pas qu'il y aura une prochaine fois, mais on ne sait jamais. En tout cas, le Seigneur, au travers de ces petits jalons qu'il met dans notre vie, nous apprend à nous confier en lui, à compter sur ses promesses. Et donc, le soir venu, juste pour terminer sur cette histoire, on a réuni les filles et on a eu juste une toute petite réunion ensemble et on s'est dit, est-ce qu'on peut juste réfléchir sur ce qui nous est arrivé aujourd'hui, cette aventure, et comment on l'a vécu? On a voulu leur rappeler que le Seigneur nous avait parlé le matin et qu'on a pu le vivre d'une manière concrète. Et je pense que c'est important pour nous tous qui avons des enfants qu'ils puissent voir que nous vivons la foi d'une manière concrète dans nos vies, au travers de nos victoires, comme au travers de nos échecs. Il y a les jours et les jours, vous savez, des fois on est confiant et le Seigneur apporte la victoire. Des fois, malheureusement, on chute, on tombe, on a eu du doute, on a douté, mais le Seigneur est toujours là. L'important, c'est que nos enfants puissent le savoir, qu'ils puissent le vivre. Les commandements que je te donne aujourd'hui, nous dit le Seigneur, seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ayons à cœur de les enseigner, parce que ce qu'ils reçoivent, ça va rester gravé en eux, jusqu'au jour où le Seigneur se révélera. Ce matin, j'ai l'opportunité... Je ne me rappelle plus si ça a été annoncé, mais pendant 6 dimanches, nous allons parler du Sermon sur la montagne. Et ça commence aujourd'hui avec moi. Et j'ai vraiment le privilège de commencer par l'un des plus beaux et des plus magnifiques textes en fait, qu'on trouve dans la Bible, qui se trouve en Matthieu 5, les versets 1 à 12, le Sermon sur la montagne, et plus particulièrement pour nous ce matin, ce qu'on appelle les béatitudes. Alors, je vous propose de le lire simplement, si tu veux bien afficher le texte. Alors, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Seigneur, nous te demandons simplement ce matin de venir ouvrir nos cœurs pour que nous puissions recevoir cette bonne parole que tu as donnée. Dans cette parole, il y a tellement de vie. Dans cette parole, il y a tellement d'espérance. Il y a tellement d'amour, tellement de force à la portée de ceux qui se confient en toi, Seigneur. Et j'ai conscience que tout ce que je peux dire ne pourra jamais égaler ce que tu as dit ce jour-là, Seigneur, sur cette montagne de Galilée. Mais puisses-tu, s'il te plaît, par ce Saint-Esprit que tu nous as envoyé, ce Consolateur, venir nous ouvrir les yeux sur nos circonstances, afin que nous puissions te voir, Seigneur, et porter du fruit pour toi et pour ta gloire. Amen. Juste un petit mot sur ce que ce texte n'est pas. Ce texte n'est pas un plan de salut. Il ne nous dit pas comment obtenir le salut. Il ne nous dit pas comment être réconcilié avec Christ. Si ce matin... vous savez que vous n'appartenez pas à Christ, si vous avez des doutes, peut-être, ce texte ne vous dit pas qu'il vous faut pleurer ou être bon ou faire preuve de miséricorde. En fait, nous ne pouvons rien faire pour obtenir ce salut. On va en parler un tout petit peu après, mais ce n'est vraiment pas le sujet de ce message, ce n'est pas le cœur de ce message. Là, le Seigneur s'adresse vraiment à des croyants. Il s'adresse à ceux qui lui appartiennent. Ce texte n'est pas non plus une description de différents chrétiens. Vous savez, heureux les chrétiens qui sont bons, ou heureux les chrétiens qui font preuve de miséricorde, ou heureux les chrétiens qui sont persécutés. Nous avons là, en fait, un plan, un ensemble de critères dans la vie, dans le cœur d'un croyant. Ils ont été dits tous en même temps, et nous pouvons les prendre séparément. On n'aura pas le temps ce matin pour ça, mais il parle d'un croyant, il parle d'un disciple de Christ. Et la question, la première question que je me suis posée en lisant ce texte, c'est: est-ce que c'est moi? Est-ce que ce texte me décrit? Moi qui ai professé appartenir à Jésus-Christ, qui professe l'avoir rencontré, qui professe marcher avec lui, est-ce que ce texte me décrit? Est-ce que ce texte te décrit? Laisse-toi. Au verset 1, nous voyons: à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Alors, de quelle foule s'agit-il? En fait, on le découvre au chapitre 4, c'est-à-dire juste avant. Jésus vient de parcourir toute la Galilée, il a guéri des malades, il a guéri de douleurs de divers genres, des démoniaques, il a chassé des démons, il a guéri des épileptiques, des paralysés, il les a guéris. Et toutes ces foules le suivaient, accompagnées de ses disciples. Et toutes ces foules montent sur la montagne. Et Jésus saisit cette occasion pour les encourager. Ce matin, nous sommes une foule, n'est-ce pas? Et il y a de tout parmi nous. Il y a des disciples de Christ qui se tiennent juste à côté de lui, espérant comprendre ce qu'il va dire, mais qui sont malheureusement un peu lents à comprendre. Mais ils le reconnaissent, mais quand même, ils sont là, vous voyez, ils s'accrochent. Il y a ceux qui sont boiteux, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui sont souffrants parmi nous. Il y a ceux qui ne voient plus que les difficultés, il y a ceux qui se demandent où est le bonheur, il y a ceux qui se demandent où est Christ, il y a ceux qui se demandent où est Dieu, est-ce qu'il est vraiment dans ce monde quand on voit la souffrance. Toutes ces foules sont là. Ce matin, nous sommes tous réunis, tous avec nos particularités, nos espoirs, nos espérances, nos doutes, nos craintes. Le Seigneur nous accueille tous et nous désirons entendre ce qu'il va nous dire. Le Seigneur monte sur une montagne. Je vois mal, vous savez, le Seigneur Jésus descendre dans une cave ou se retirer dans une grotte pour annoncer de tels messages. C'est étonnant parce que, en fait, ça nous parle vraiment tout ça. Il était au milieu de la nature, vous savez, il ne s'est pas retiré dans un coin comme certains gourous qui se mettent dans un coin à l'écart, une secte pour annoncer des trucs secrets ou quoi. Jésus le faisait en plein air, il le faisait devant tout le monde, il n'avait pas peur, il annonçait qui il était. Ça m'a rappelé un tout petit texte qu'on a lu dans le Bilbon, le Hobbit. Et alors, Bilbon vient de rencontrer les nains. Je ne m'étends pas là-dessus, mais le soir approche, voilà, et Bilbon veut amener de la lumière. Et voici ce que les nains répondent. « Nous aimons l'obscurité, déclarèrent tous les nains d'une seule voix. L'obscurité pour les affaires obscures. Il y a encore bien des heures, dit Silob. » Le Seigneur aimait la lumière parce que notre Dieu est un Dieu de lumière. Et tout ce qu'il a annoncé, il l'a annoncé en plein jour, devant tout le monde, sans exception. Alors il est monté sur cette montagne. Et la montagne nous parle beaucoup. C'est sur une montagne que la loi a été donnée. Sauf que ce n'était pas le même genre de montagne. La loi qui a été donnée sur le mont Sinaï, la montagne, il nous dit qu'elle tremblait, qu'il y avait du feu, qu'il y avait des éclairs, qu'il y avait du tonnerre, des tremblements de terre, et tout le monde était saisi de peur et de frayeur devant cette montagne. La loi a été donnée, et c'était le symbole, vous savez, cette montagne du loi qui est inaccessible, qu'on ne peut pas par nous-mêmes appliquer. Même le simple commandement, je ne sais pas moi, tu ne tueras pas ton prochain, nous l'avons tous brisé. Lorsque le Seigneur Jésus nous a dit qu'en fait, la seule fois où tu t'es mis en colère contre ton prochain, c'est comme si tu l'avais tué. Il nous a expliqué l'esprit de la loi. Il nous a montré que cette loi était inaccessible. Mais quand Jésus est monté sur cette montagne, je peux vous assurer, je suis sûr que le ciel était beau. Je suis sûr qu'il y avait de l'herbe et des oiseaux qui chantaient et des figuiers et des oliviers en fleurs. Je suis sûr que cette montagne était accueillante parce que c'est là que le Seigneur nous a révélé la grâce. C'est là que le Seigneur est venu nous révéler l'esprit de la loi et comment il était venu pour accomplir cette loi pour nous, pour toi, pour moi. Cette montagne était accueillante. Quelques remarques générales sur ce texte, et malheureusement nous n'aurons le temps que de faire des remarques générales. Ce texte est au, ce qu'on appelle un présent continu. Heureux ceux qui reconnaissent, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif, qui font preuve de bonté, qui ont le cœur pur. Ce n'est pas heureux si un jour vous avez pleuré sur vos péchés, ou heureux si un jour vous avez eu le cœur pur, ou si un jour vous avez pris une décision pour Jésus, ou fait quelque chose, ou pensé quelque chose. Mais aujourd'hui, dans ta marche avec le Seigneur, tu es heureux. La démonstration que nous sommes des croyants. Parfois les filles me demandent, comment je fais pour savoir si je suis sauvé ? Comment je fais pour savoir si je crois en Dieu ? C'est parce qu'un jour je me suis repenti et je me repens encore. Un jour, le Seigneur m'a montré mon péché et je le vois encore aujourd'hui et je le déteste. Un jour, le Seigneur m'a montré qui il était vraiment. Il m'a appris à l'aimer et je l'aime encore. Aujourd'hui, je marche avec lui. Aujourd'hui, je marche avec lui. Et le Seigneur nous le dit. Il nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne dit pas que c'est parce que nous persévérons que nous sommes sauvés. Il dit que parce que nous sommes sauvés, nous allons persévérer. Ce texte ne présente pas de faits. Il ne dit pas « heureux ceux qui évangélisent les masses ». Il ne dit pas « heureux les pasteurs avec de grandes assemblées ». Je sais que tu es heureux, Jeff. Il ne dit pas « heureux lorsque vous témoignerez »,« heureux lorsque vous ferez ceci ou cela ». Ce texte, cette parole que Jésus nous a donnée, nous parle d'un état d'esprit, d'un état du cœur. Et le Seigneur regarde au cœur. Il y a des gens qui font de merveilleuses actions partout dans le monde, mais le Seigneur regarde leur cœur. Et il nous parle du cœur ce matin. Et Paul l'a exprimé mieux que moi, et je vous dis simplement ce qu'il a dit. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le Seigneur regarde au cœur, notre caractère, notre manière d'agir. Et c'est en totale contradiction avec les valeurs de ce monde, en fait, quand on regarde bien. Ce monde nous dit, il faut être un loup pour réussir, il faut faire ceci, il faut être dur, sois acteur de ton succès, tu vois, c'est ça qu'il nous dit. Et on méprise les gens qui sont doux, ceux qui recherchent la justice, ils sont écrasés. On méprise ces valeurs-là, mais le Seigneur vient les mettre en valeur dans ce texte. Heureux, il revient 9 fois dans ce texte. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter dessus, évidemment. Ça vient du grec makarios, je suis allé chercher. Makarios qui signifie heureux ou béni. Vous savez, en anglais, je ne sais pas si vous êtes bilingue ou si vous avez eu l'occasion de lire la Bible ou quelques passages de la Bible en anglais. Si vous lisez ce texte en anglais, il n'est pas écrit happy, mais blessed. Blessed, ce qui signifie béni en anglais. Et il y a des conversations théologiques fortes entre les théologiens pour savoir s'ils devraient mettre happy ou blessed, béni, à la place dans ce texte. Nous, on a choisi heureux. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'ici nous avons une déclaration de Dieu. Ce n'est pas, vous savez, ce sentiment de bien-être, d'être heureux ou en paix ou joyeux, qui est si fluctuant, qui est si changeant. Dieu ne promet pas ça. Dieu te dit, toi qui es croyant, tu es béni. C'est une déclaration que je fais sur toi. Tu es béni par moi, tu as ma totale faveur. Tu as été rendu propice. Je t'ai été rendu propice. Je suis dans ta faveur maintenant. Tu m'appartiens. Tu es béni. Et c'est important parce que ce n'est pas parce que tu ne te sens pas heureux que tu n'es pas béni. Ce terme makarios en grec était utilisé dans trois contextes particuliers. Il était utilisé pour les dieux. Vous savez, ils avaient tout un tas de dieux, les Grecs. Ils étaient utilisés pour les dieux parce que les dieux étaient bénis. Ils ne connaissaient aucune souffrance. Ils étaient utilisés pour les morts, parce que les morts étaient bénis, parce qu'ils ne connaissaient plus aucune souffrance. Et ils étaient utilisés pour les gens les plus aisés, les plus riches, ceux qui avaient été le plus favorisés dans la société. Et voilà que le Seigneur l'utilise pour les pauvres, pour les humbles, pour les doux, pour les persévérants, pour les persécutés à cause de son nom. Vous êtes bénis ce matin de notre Seigneur, de cette manière-là. Et cet état de bénédiction n'est pas basé sur le fait que vous vous sentiez béni ou que vous vous sentiez heureux ou malheureux. Cet état est basé sur un fait. L'œuvre parfaite de Jésus-Christ accomplie par sa vie parfaite et par sa mort parfaite pour toi. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si c'est basé sur un fait, sur sa vie à lui, ça veut dire que rien ne peut me séparer de cette bénédiction. Amen. C'est une déclaration de Dieu. Nous voyons 9 heureux. 9 fois, il vient énoncer ce terme heureux, makarios. On a dit, il y a 9 béatitudes. Et je ne vais sûrement pas contredire ça, mais j'aimerais venir un petit peu juste. Moi, j'en vois sept. Depuis heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient, jusqu'à la huitième qui dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient, et la neuvième qui découle de cette huitième-là. Nous avons dans le chiffre 7 une plénitude de bénédiction de Dieu. Une plénitude, une couronne de gloire. La totalité de la faveur de Dieu nous est acquise totalement, entièrement. Et si nous regardons, on peut peut-être revenir à la première diapo, je ne sais pas si elle est là. Merci. Si nous regardons ces déclarations qu'il a faites, nous voyons qu'elles jaillissent les unes des autres. Vous savez, elles ne sont pas comme déconnectées les unes des autres. On part de la première et on vient suivre un chemin logique. Ceux qui pleurent à cause de leur pauvreté spirituelle. Les doux ont été radoucis par leurs lamentations et par leurs pleurs. Les doux sont victimes d'injustice et recherchent la justice. Cette justice se manifeste par de la bonté et par un esprit paisible. Et nous lisons enfin un huitième, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » De quelle justice il parle ici? Il parle de tout ce que nous avons vu avant. Cette justice, quelle est-elle? Reconnaître sa pauvreté spirituelle, pleurer, être doux, avoir faim et soif de justice, faire preuve de bonté, avoir le cœur pur, procurer la paix. Pour autant, et ça, c'est important. Le royaume des cieux appartient autant à ceux qui sont humbles et qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle qu'à ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux appartient autant à l'enfant spirituel qui vient de naître qu'à l'homme le plus mature dans la foi. Le royaume des cieux appartient autant à celui qui vient à la première seconde de donner sa vie à Christ qu'à celui qui a marché toute sa vie avec lui. Le royaume des cieux appartient autant à celui qui a reçu 10 talents qu'à celui qui n'en a reçu qu'un seul. Le royaume des cieux appartient autant au chrétien qui est faible qu'au chrétien qui est fort. Il est pour tous. Dès le premier instant où tu es né en Christ, il t'appartient. Nous voyons là la justice admirable de Dieu. Personne n'est oublié. Les forts ne sont pas mis en valeur, les faibles non plus. Il y a une équité totale pour chacun d'entre nous. Au verset 11, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice », nous voyons que ce n'est pas une option, cela va arriver ou cela est arrivé. Et bien souvent, je pense que nombreux ici nous sommes à témoigner de dire que la première persécution a pu arriver dans notre famille directement. Lorsque nous avons découvert le Seigneur et que nous avons cherché à témoigner, nous n'avons pas reçu que des acclamations. La première persécution est arrivée là. Et ensuite, elle se manifeste différemment en fonction de nos métiers, de l'endroit où nous vivons. C'est pour ça que le Seigneur ne s'étend pas spécialement sur le sujet de l'époque que nous traversons, d'accord ? Je ne dis pas que nous allons tous vivre d'intenses souffrances ou mourir en martyr, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais elles seront là et elles sont là. Il dit « Heureux serez-vous ». Alors je suis allé voir le grec là aussi. Dans le grec, il dit « Heureux êtes-vous ». C'est un présent exactement comme tout le reste. Vous êtes déjà heureux. Vous êtes déjà béni. D'accord ? Présent actuel. Au verset 12, qui est celui qui vient clore ce temps, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Quelle est cette récompense ? Elle découle de tout ce que nous venons de dire. Le royaume des cieux t'appartient. La consolation t'appartient. L'héritage t'appartient. Tu vas être rassasié de justice. On va avoir de la bonté pour toi. Le Seigneur va essuyer toutes les larmes de tes yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni mort, ni maladie, ni angoisse. Et ton cœur sera rempli de joie. Et tu le verras tel qu'il est. Et tu seras transformé à son image. Nous avons vécu une aventure hier. Cette aventure, nous aurions pu la vivre de deux manières différentes, dans l'angoisse ou dans la satisfaction et l'assurance que le Seigneur est et était et sera avec nous. Il n'a pas changé les circonstances, mais il a changé ma vision de ces circonstances. Il m'a appris à vivre ça avec lui. Ce n'est pas toujours le cas. Je reconnais mes échecs, mes défaites. Je ne les vis pas toujours comme ça. Les difficultés. Mais quand il le permet, quand il te permet de porter du fruit, que tes enfants le voient, tu es heureux, tu es béni. Cette couronne de gloire, elle est pour moi, elle est pour toi, dès maintenant. Cette plénitude d'espérance, cette plénitude de paix, elle est pour toi, dès maintenant. Il y a une histoire, et on va terminer là-dessus, une histoire qui est très formatrice, c'est celle de Joseph. Joseph a passé des années en prison. Il a été vendu par ses frères en esclaves et il a passé des années en prison. Peut-être que tu es dans une prison ce matin. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parole ? Il nous est dit que le Seigneur était avec lui et qu'il faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. À quoi ressemble le succès avec le Seigneur ? Joseph le témoigne lui-même. Il le dit en Genèse 41, verset 52, « Il appela le second, son second enfant, Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Dieu m'a rendu fructueux dans le pays de mon malheur. Alors que j'étais dans l'affliction, alors que j'étais en prison, seul et abandonné, pour de mauvaises raisons, on a usé d'injustice envers moi, Dieu m'a rendu fructueux. Il a produit du fruit en moi. » Dans le pays de mon malheur. Seigneur, nous voulons reconnaître que toutes les circonstances qui se trouvent autour de nous, toutes les circonstances qui se trouvent dans ce monde, en ce moment même, des millions et des millions et des milliards de circonstances servent tes plans. Ces circonstances servent tes plans et nous voulons avoir foi en cela. Nous voulons croire en cela, même si nous ne voyons pas le bien qu'il pourrait ressortir de ces guerres, le bien qui pourrait ressortir de ce malheur, le bien qui pourrait ressortir de ces souffrances. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, accorde-nous de voir du bien dans les difficultés que nous pouvons vivre, Seigneur, aujourd'hui, celles que nous vivons dans notre communauté, celles que d'autres vivent partout dans le monde. Donne-nous de voir le bien qui s'y trouve, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ce bien et que de ces circonstances, nous puissions produire du fruit, Seigneur. Un fruit qui te glorifie, un fruit qui te met en avant, un fruit non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui se trouvent autour de nous, un fruit pour cette communauté, un fruit d'espérance, un fruit de paix, un fruit de joie, un fruit d'amour. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Si nous sommes dans l'épreuve, nous t'en prions, viens à notre secours et donne-nous de tenir ferme jusqu'au bout. Nous voulons persévérer pour toi. Nous avons confiance en toi. Révèle-toi, Seigneur, nous t'en prions. Amen.